Je m'appelle Benjamin Cerdan et je suis expert comptable spécialisé dans l'accompagnement des artistes, des auteurs et des autrices. Le métier d'expert comptable, c'est un métier de sachant, c'est-à-dire qu'on apprend les règles en matière de droit fiscal, droit social, droit des sociétés, et on accompagne les porteurs et porteuses de projets sur la compréhension des différentes alternatives possibles pour pouvoir réaliser leur projet. Concrètement, face à une question, on apporte les différentes alternatives sur le plan fiscal, social, et derrière, on crée l'outil juridique qui va permettre de pouvoir porter ce projet. D'une manière plus spécifique, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement des artistes-auteurs. Alors, ce cheminement s'est fait assez naturellement. Pendant que je préparais mon master, j'ai rencontré un costumier dans le cinéma qui m'a parlé de toutes les problématiques qu'il rencontrait en tant qu'intermittent du spectacle lorsqu'il travaillait pour des boîtes de production étrangères. Je me suis un peu passionné par ce sujet et surtout par le traitement social et sociétal de cette question de l'indemnisation chômage des créatifs, des intermittents du spectacle. Et je me suis rendu compte, en lisant des rapports de la Cour des comptes, qu'il y avait vraiment une dichotomie très forte entre l'image que le grand public a de ce régime, de ce qu'il coûte, du mode de fonctionnement de cette économie, et la réalité, pourtant mise en avant par la Cour des comptes, donc des personnes qui sont relativement objectives. Suite à ça, lorsque je me suis lancé sur ma thèse, sur mon diplôme d'expertise comptable, j'ai décidé de creuser sur un sujet un peu plus spécifique, celui des auteurs et autrices de bande dessinée. Étant fan de bande dessinée, j'ai décidé de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on parlait de paupérisation et de précarisation des personnes à l'origine d'un segment du marché de l'édition qui est en pleine croissance et quasiment en croissance constante depuis une vingtaine d'années. En faisant ça, donc j'ai fait mon deck sur la diversification de revenus des auteurs et autrices de bande dessinée et la réappropriation de l'œuvre par les personnes à l'origine de l'œuvre. Donc mon métier aujourd'hui, c'est de donner du temps créatif disponible à des auteurs et des autrices en les soulageant des contraintes administratives et de la charge mentale que représentent les obligations déclaratives en matière fiscale et sociale. Mon métier, c'est également de trouver des outils juridiques pour leur permettre de pouvoir exercer au mieux leur activité et faire en sorte de limiter au maximum les coûts que représentent les taxations fiscales et les cotisations de contributions sociales. Voilà. Le financement participatif, c'est un moyen de financement qui est extrêmement large. Donc on peut parler de crowdlending pour des emprunts, on peut parler de financement avec ou sans contrepartie. Moi là aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement du financement participatif avec contrepartie, c'est-à-dire l'alternative économique qu'on retrouve souvent sur le secteur de l'édition pour que les auteurs et autrices puissent publier une œuvre en s'adressant directement aux consommateurs de cette œuvre, aux lecteurs et aux lectrices. Donc le principe est assez simple, au travers d'une plateforme, quelle qu'elle soit, l'auteur ou l'autrice propose d'un point de vue général l'œuvre et ensuite, en fonction des types de contreparties, va y ajouter des produits dérivés, des petits compléments, des dédicaces et autres, de façon à construire différentes alternatives pour encourager des contributeurs, donc les contributeurs sont les personnes qui vont participer à ce financement, et donc le but ça va être de les encourager à contribuer, donc à participer. Pour ça, on met en place une campagne déclarative, et cette campagne se déroule pendant un temps déterminé au cours duquel chaque contributeur aura la possibilité d'opter pour un système de contrepartie qui lui convient le mieux. In fine, en fonction du volume de contributions récoltées, le porteur ou la porteuse de projet a la possibilité d'offrir aux contributeurs et aux contributrices sur le projet des goodies supplémentaires ou des choses en plus qui vont se débloquer avec un système de paliers. Par exemple, Si je souhaite obtenir une somme de 20 000 euros, une fois que j'ai atteint ce palier, mon financement participatif est validé et je vais pouvoir débloquer un palier supplémentaire. Et si par exemple l'ensemble des contributions dépasse 30, 40, 50, 100 000 euros, je vais débloquer successivement différents paliers au cours desquels je vais ajouter une couverture un peu plus qualitative ou la version audio du livre en question. Enfin voilà, le principe, c'est que pendant cette campagne, il va y avoir une interaction très forte entre les lecteurs et lectrices et l'auteur ou l'autrice à l'origine de l'œuvre. Alors, la question de déclarer un financement participatif est une question qui a beaucoup évolué au fil du temps. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit, pour un auteur ou une autrice, déclarer ce revenu, c'est assez compliqué, tout simplement parce que en tant qu'auteur ou autrice, on était à l'époque affilié à l'AGESA et ou à la MDA, en fonction de si on était sur la partie auteur-autrice ou sur la partie artistique. Donc, ce revenu, on ne pouvait pas le déclarer auprès de l'AGESA ou de la MDA. On était obligé de le déclarer auprès de l'URSSAF des indépendants. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Depuis le décret 2020-10-95, qui date du mois d'août 2020, avec une mise en application au 1er janvier 2021, depuis cette date-là, il est possible de le déclarer. Alors, autre changement, c'est auprès de l'URSSAF des artistes-auteurs. Et donc, on peut le déclarer d'un point de vue social. Du point de vue fiscal, ça a toujours pu être déclaré sur le statut micro-BNC ou BNC déclaration contrôlée. Ça posait pas vraiment de difficultés. Donc, très concrètement, on va se focaliser désormais sur ce qui est possible aujourd'hui. On a deux régimes possibles. Le premier, c'est le régime simplifié, dit micro-BNC. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on va prendre le total du montant reçu de la part des contributeurs. Et on va déclarer directement auprès de l'URSSAF des artistes auteurs et de l'administration fiscale ce montant. Et ensuite, l'organisme social et l'administration fiscale vont appliquer des abattements forfaitaires sur ce montant, puis calculer le montant des cotisations ou de l'impôt sur le revenu dû sur ce montant. Du point de vue BNC déclaration contrôlée, autrement appelé régime réel, on a la possibilité de pouvoir déduire les charges au réel. C'est-à-dire que on va pouvoir déduire l'intégralité des charges liées à ce financement participatif avant de déterminer le montant qui va s'appeler le résultat fiscal et qui va être reporté sur ce qu'on appelle la 2035. Donc c'est une déclaration en BNC déclaration contrôlée. Donc dans ce cadre-là, on prend le montant qui a été reçu, on déduit toutes les charges afférentes à ce montant et on va pouvoir déclarer ça fiscalement tel quel. Du point de vue URSSAF des artistes auteurs, eh bien on applique le même calcul, on le déclare auprès de l'URSSAF des artistes auteurs qui va majorer ce chiffre de 15% et calculer les cotisations sociales dessus. Il n'est jamais obligatoire de faire appel à un expert comptable, on a toujours la possibilité de le faire par soi-même, c'est simplement plus ou moins complexe et compréhensible. Un autre point au niveau fiscal, c'est la TVA. Il faut savoir que sur un financement participatif, on va également être assujetti à TVA, donc on va devoir reverser la TVA. Si on est sur un livre, on va être sur un taux à 5,5%. Si la contrepartie, c'est des produits dérivés, on sera sur un taux de TVA à 20%. Et si on est sur un pack qui comprend les deux, on va essayer d'analyser, voir si les goodies sont accessoires ou non. S'ils sont accessoires, on restera sur un taux à 5,5%, c'est-à-dire le taux du principal, celui du livre. Et si jamais ils sont principaux, c'est-à-dire que ce qui est reçu principalement, c'est du produit dérivé ou par exemple un cours de cuisine, parce que ça a déjà pu arriver, alors dans ce cas-là, le taux de TVA sera à 20%. Voilà comment on va déclarer les choses du point de vue fiscal et social. Les risques et les points de vigilance à avoir avant de se lancer sur un financement participatif, déjà le premier, c'est de prendre conscience de la charge de travail que ça va représenter et le coût d'investissement personnel que l'on va devoir subir pour pouvoir accomplir un financement participatif. c'est quelque chose d'intense. Donc, les points de vigilance à avoir, bah, moi j'ai une déformation professionnelle sur ce plan-là, mais forcément je vais regarder l'aspect économique, c'est-à-dire faire en sorte d'atteindre son objectif économique. L'objectif, c'est soit exclusivement de diffuser son œuvre, que l'on en tire des bénéfices ou non, soit de se rémunérer pour son travail. À partir du moment où on décide d'être dans l'optique de se rémunérer pour son travail, il va falloir être vigilant à un premier palier, ce qu'on appelle la validation du financement participatif, c'est-à-dire que si je propose un palier à 10 000 euros, alors vis-à-vis des contributeurs, je m'engage à mettre en œuvre ce financement participatif et donc à leur livrer les contreparties qu'ils auront souscrites. Et si ces 10 000 euros ne sont pas suffisants pour le faire, eh bien je risque de devoir le faire à perte. Donc, premier point, valider ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le montant récolté à partir duquel je suis à l'équilibre. Si sur mon financement je suis à l'équilibre, ça veut dire que ensuite, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir commencer à engranger des revenus et donc à pouvoir me payer sur ce travail. Ça, je dirais que c'est le risque principal. Le deuxième, c'est un petit peu le risque du miroir aux alouettes, dans le sens où le financement participatif, c'est quelque chose qui, sur le papier, fait un peu rêver, parce que dans le circuit de l'édition classique, on va avoir des pourcentages de rétrocession de droits d'auteur entre 3,5 pour les plus violents et 15 pour les plus chanceux. Donc 3,5 et 15% sur le prix de vente final du livre. Alors que si on est sur du financement participatif, bah on va pouvoir aller frôler les 35, 45, 50, voire plus, en fonction du volume levé et de l'économie que l'on aura développée autour de ce financement. Donc ça, ça peut être le miroir aux alouettes, dans le sens où c'est hyper attirant, mais ce serait se méprendre sur l'investissement personnel que ça demande et les compétences qu'il est nécessaire de mobiliser pour pouvoir le faire. Donc clairement, avant de se lancer sur un financement participatif, il faut se poser et s'interroger sur ses propres capacités. Alors si j'avais un conseil à donner à un auteur ou une autrice qui voudrait se lancer sur un financement participatif, le premier, ce serait de s'interroger, ou plutôt d'interroger ses pairs, c'est-à-dire de contacter d'autres porteurs de projets pour avoir des retours d'expérience, pour savoir un petit peu ce que ça représente, puisque c'est pas du tout le même métier. Auteur ou autrice, on crée une œuvre et ensuite derrière on la confie à un éditeur qui va avoir tout un travail à faire derrière avec un imprimeur, avec un distributeur, avec une logistique énorme. Quand on décide de se lancer sur un financement participatif, on va devoir faire 1000 métiers. C'est pas donné à tout le monde. Donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est contacter d'autres porteurs de projets, contacter des personnes qui ont déjà réalisé ça avant vous et interrogez-les, recevez les témoignages et questionnez-vous sincèrement. Parce que le risque, c'est la déception, parce que ça va demander beaucoup, beaucoup de travail et que si c'est mal fait, ça peut très mal se passer. Donc le premier point, c'est celui évoqué précédemment, c'est-à-dire l'aspect économique, faire en sorte d'avoir un modèle économique qui tient la route pour pouvoir valider chaque palier. Et le point suivant, ça va être d'analyser tous les métiers qui vont être à faire en matière de logistique, achat, impression, expédition, stockage, en matière de communication, parce que community management, faire en sorte de pouvoir fédérer une communauté, faire en sorte d'avoir